Merci Jocelyne. Bonjour Farley, bonjour à ta maman, la sœur Marie-Andrée. Daphné est effectivement au travail ce matin. Donc, Néma est allée s'affaler au sol, pas tellement loin du micro. Donc, si vous entendez ronfler tout à l'heure, ce n'est pas mon ventre qui gargouille, c'est tout simplement Néma qui roupille. Bonjour Jimmy, j'espère que tu vas bien. Le bonjour à toute la petite famille et à notre chère Danica. Alors, on va prier pour débuter et après, on donne les indications pour cette semaine. Alors, merci Seigneur pour cette nouvelle semaine qui débute. Un temps, Seigneur, pour étudier tous ensemble ta parole et plus encore cette semaine pour étudier comment nous répondons à cette parole. Alors, nous prions, Seigneur, que tu ouvres notre entendement, que tu ouvres notre pensée. Et que tu nous permettes, Seigneur, de recevoir pleinement ce que tu as pour nous. Au-delà, Seigneur, de ce que nous pouvons vivre les uns et les autres, au-delà des circonstances qui sont nôtres, nous te demandons, Seigneur, de nous abreuver et de nous nourrir de ce que tu as préparé de toute éternité pour nous et que tu avais, Seigneur, dans tes greniers pour cette saison-ci, pour cette époque-ci et pour ces journées-ci. Alors merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce et ton soutien. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors simplement pour remercier un peu tout le monde, ceux qui se joignent à nous, merci pour vos prières concernant mon père. Donc il est encore hospitalisé. On a plusieurs tests encore à lui faire passer, dont une résonance magnétique au niveau cérébral. Échographie du cœur, cardioscopie, donc une caméra qu'on fait descendre jusque dans les parois du cœur. Donc différentes choses comme ça qui doit encore passer à travers les prochaines journées pour voir d'où vient l'arythmie pour laquelle il a été hospitalisé. Il n'a pas été transporté en urgence, il n'a pas été transporté par ambulance, c'est son médecin qui lui a dit de se rendre directement à l'Institut de cardiologie pour faire des tests et arriver là-bas, le personnel médical a préféré le garder étant donné une arythmie assez poussée au niveau du cœur. Donc ça, c'est les dernières nouvelles concernant mon père, concernant Patricia, notre sœur qui passe par le deuil, donc elle a voyagé vers le Burkina Faso. Elle est arrivée maintenant à Ouagadougou. Les dernières nouvelles que j'ai eues d'elle étaient quand elle prenait l'avion entre Accra, la capitale du Ghana, et puis Ouagadougou. Donc on va lui donner quelques jours pour être avec la famille. Après ça, certainement qu'on aura des nouvelles de sa part. Il y a des gens qui nous ont demandé ce qu'ils peuvent aider Patricia d'une manière ou d'une autre. On l'a dit hier, mais certainement encore posé la question à travers les dernières heures. Donc, ceux qui voudraient aider, vous pouvez toujours passer par l'église qui fera parvenir à la sœur Donc, si vous voulez faire une offrande ou autre pour la sœur, donc l'Église fera parvenir cela. Donc, c'est tout pour les petites annonces de cette semaine. Simplement vous dire, cette semaine, on étudie, à la suite de la prédication d'hier avec le pasteur André, on va étudier dans Éphésiens au chapitre 5, essentiellement du verset 15 au verset 17, mais pour avoir une meilleure compréhension du contexte dans lequel ce texte a été écrit et donné. On va lire les quelques versets qui précèdent ce matin, mais sinon, l'enseignement va être essentiellement sur les trois versets 15, 16 et 17. Et la thématique pour cette semaine, c'est ma réponse à l'enseignement de la parole de Dieu. Quelle est la réponse que j'offre à l'enseignement que je reçois de la parole de Dieu. Et quand je parle d'enseignement, et on va certainement le répéter tout à l'heure, je ne parle pas nécessairement de votre temps de lecture personnelle, mais du temps que vous prenez en tant que membre du peuple de Dieu à recevoir dans vos églises locales, auprès des ouvriers locaux que vous avez auprès de vous. Qu'est-ce que vous faites de cette parole-là? Pour ceux qui sont de la congrégation de Montréal, qu'est-ce que vous faites de la prédication que vous avez reçue hier? Qu'est-ce qu'on fait, comme le pasteur André le soulevait hier? Qu'est-ce qu'on fait des enseignements qu'on a reçus depuis le début de l'année sur le jubilé? Qu'est-ce qu'on fait des études bibliques qu'on reçoit? Qu'est-ce qu'on fait des cours bibliques? Quelle est la réponse que j'affiche à ça? Je crois que c'est important. Alors, on va lire tout de suite dans Éphésiens au chapitre 5, et je vais lire pour vous à partir du verset 8 jusqu'au verset 18. Mais comme je vous dis, c'est simplement 15, 16 et 17 qu'on va étudier cette semaine. Donc du 8 plutôt au verset 17. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez point inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et je répète pour vous les trois versets de cette semaine, à partir du verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez point inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Alors, que Dieu bénisse sa parole une fois de plus ce matin. Le verset d'aujourd'hui, le verset 15, nous dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Le premier point de ce matin vient du mot « donc ». Et parfois, c'est ce genre de mots qui arrivent dans une phrase, dans une lecture, et pour lequel on ne s'arrête pas parce que c'est un terme courant, parce qu'on pense que c'est tout simplement quelque chose qui fait le lien entre deux éléments, mais que ce lien-là en soi n'est pas très important. Je vous dirais que pour nous ce matin, ce « donc » devrait avoir une portée majeure. Prenez donc garde. Prenez donc garde. Garde. Donc, c'est le terme grec, puisqu'on est dans le Nouveau Testament, donc dans l'étude de cette semaine, ça va être des termes grecs qu'on va voir. Donc, en grec, c'est le terme oun, O-U-N, O-U-N, qui veut dire conséquemment, qui veut dire en raison de ceci, en raison de cela, ou l'expression qui dit ceci étant. Donc, dû au fait que, alors voici, bababam. Le donc ici vient faire le lien avec ce qui était avant et ce qui va être prononcé maintenant. Et ce qui était dit avant, c'était comme quoi on était autrefois des gens de ténèbres et qu'on est maintenant des gens de lumière, qu'on doit porter un fruit de l'esprit qui est agréable à Dieu, qu'on doit abandonner les œuvres des ténèbres, qu'on doit abandonner ce qui était peut-être pratique pour nous autrefois, de choses honteuses devant Dieu, et qu'on doit sortir de notre torpeur et se réveiller alors qu'on dort dans l'iniquité et on dort dans les ténèbres. Et là, Paul va continuer en disant « Prenez donc garde de vous conduire. » C'est donc qu'il est en train de dire « À la lumière de ce que je viens de vous dire, voici ce que vous devez faire. » À la lumière du fait que Dieu condamne les actes des ténèbres, à la lumière de ce que Dieu appelle, de ce que Dieu demande, de ce que Dieu exige de notre part des œuvres de lumière et non pas des œuvres de ténèbres, à ce moment-là, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Le premier point pour ce matin, avec ce terme « un », ça serait de nous dire que la parole reçue, la parole que nous recevons par l'enseignement, doit avoir une incidence sur ma vie. Paul, à l'époque, oui, prêchait dans des endroits, prêchait dans les villes où il s'arrêtait, prêchait dans les églises qu'il fondait et les communautés qu'il fondait, mais une autre façon qu'avait Paul d'enseigner et qui nous est donnée jusqu'à nous aujourd'hui, je vais juste prendre une gorgée. Aujourd'hui, j'ai un peu mal à la gorge, donc la tisane fait du bien. Donc, quand Paul voulait enseigner, ce qu'il faisait aussi, c'était d'écrire des lettres, ce qu'on appelle aujourd'hui des épîtres, donc des écrits épistolaires, des lettres qu'il envoyait aux différentes églises. Et ces lettres-là étaient une source d'enseignement, une source de vérité biblique pour les enfants de Dieu, et ce l'est encore pour nous aujourd'hui. Donc, lorsque je reçois une parole, lorsque un prédicateur monte sur la tribune et qu'il partage un enseignement, cette parole partagée, et je l'espère, cette parole reçue par nous, l'auditoire de celui qui prêche, cette parole doit avoir une incidence. On ne devrait pas permettre à la parole de Dieu simplement d'être entendue et qu'elle ne suscite aucune incidence, aucune transformation ou aucune conséquence dans notre vie. Lorsque on se présente pour écouter la parole de Dieu, notre prière devrait être « Seigneur, que cette parole ait un effet sur moi et que je puisse prendre ou répondre favorablement à cette parole. » Non seulement qu'elle ait toute la charge spirituelle et toute l'onction spirituelle pour opérer des transformations dans ma vie, mais qu'elle ait aussi cette grâce de trouver en moi un terreau qui lui est propice pour qu'elle puisse croître et porter du fruit, qu'elle puisse trouver chez moi ce désir de répondre favorablement et d'orienter ma vie en parallèle et en accord avec la parole reçue. Donc, le premier point avec le terme « donc » aujourd'hui, la parole reçue doit avoir une incidence sur ma vie. Et tous les points qu'on va voir aujourd'hui vont commencer par la parole reçue. Pourquoi? Parce que je veux que ce soit très clair qu'on parle ici de l'enseignement qui nous est prodigué, non pas simplement notre lecture, notre temps de dévotion personnelle, notre temps d'étude personnelle, mais vraiment quand le Seigneur prend le temps d'utiliser un de ses serviteurs pour nous accorder une parole, pour nous donner une parole, on sait, et vous m'entendez régulièrement le dire, cette parole-là ne vient pas d'aujourd'hui. Elle a été préparée de toute éternité par Dieu pour ce matin. ce que je suis en train de partager avec vous ce matin n'est pas le fruit de la réflexion d'hier soir, n'est pas le fruit d'une imagination humaine d'hier soir, mais c'est le fruit d'une inspiration qui a pris sa racine de toute éternité, alors que Dieu pensait de façon spécifique et précise à ceux qui entendraient cet enseignement aujourd'hui. Donc face à cette réalité et face à ce fait important, je dois avoir la bonne attitude, donc la parole reçue doit avoir une incidence dans ma vie. Je ne dois pas permettre qu'il n'y ait pas chez moi des transformations, qu'il n'y ait pas chez moi des modifications, une bonification de ma personne suite à la réception de la parole de Dieu. Le deuxième terme qu'on utilise ce matin, prenez donc garde, prendre garde, c'est le terme blepo, blepo, B-L-E-P-O. Je répète, blepo, B-L-E-P-O, qui veut dire être capable de voir. Quand on parle de prendre garde, c'est cette notion imagée que la langue grecque et la langue hébraïque avaient, qui était de, dans ce cas-ci, d'avoir les yeux ouverts, d'être capable d'observer, d'être capable de voir, d'être capable de percevoir. Et quand on pousse plus loin, d'être capable de comprendre, voire d'être capable de tourner son attention vers une chose. C'est comme lorsque on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui a bougé près de nous, dans notre vue périphérique, il y a quelque chose qui vient de bouger et on porte le regard vers cette chose-là pour distinguer ce qu'elle est et pour distinguer ce qui fait ce mouvement-là. Donc, c'est le fait que notre attention a été capté et que ce faisant, je tourne mon regard vers l'objet qui a capté mon attention. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Deux points importants. La parole reçue doit pousser à une introspection. Lorsqu'on dit de prendre garde, ça veut donc dire que je dois faire attention. Faire attention à quoi? Faire attention à ce que je fais, faire attention à ce que je reçois, faire attention à ce que je consomme, faire attention à quelle vie je mène. Et tout cela, c'est un peu un regard qu'on lance à l'intérieur de soi en se demandant « Est-ce que je suis en train de vivre la vie que Dieu veut que je vive ?» Donc, la parole de Dieu, malheureusement, je dirais, parfois on écoute la parole, on écoute une prédication, puis on se dit « Ah mince, si ce frère-là avait été là, je pense que ça aurait été approprié. » Des fois, on est en conflit avec quelqu'un et on entend une parole, on entend une prédication et on se dit « Ouais, ça devrait lui faire du bien à lui. Il devrait l'écouter. » Malheureusement, ce n'est pas le réflexe qu'on devrait avoir. Notre réflexe devrait être « Seigneur, je suis assis devant toi. » Ton serviteur va apporter une parole, ton serviteur va partager quelque chose que tu as placé dans son cœur. Je veux, Seigneur, recevoir pleinement pour moi-même cette parole-là. Il n'y a pas d'égoïsme à recevoir la parole de Dieu. C'est un bon égoïsme de dire « Oui, je veux savoir qu'est-ce que Dieu a préparé pour moi. Qu'est-ce qu'il veut me dire à moi ?» Donc, avant de penser à ce frère ou à cette sœur ou à ce bien-aimé ou à cette bien-aimée ou voire même à cette personne qu'on aime un peu moins, c'est qu'il y aurait besoin d'entendre le message, qu'on puisse se l'approprier pour nous. J'ai déjà entendu que lorsqu'on pointe du doigt quelqu'un, il y a un doigt qui pointe vers la personne, mais il y en a trois qui pointent vers nous. Donc, c'est important lorsque j'étudie la parole de Dieu que je regarde ces doigts qui pointent vers moi, que je puisse être en mesure de faire cette introspection en disant « Qu'est-ce que cette parole a à me dire pour moi? Quels sont les changements que cette parole devrait susciter ?» Lorsqu'on parle de blé pour prendre garde, donc de comprendre, de tourner son attention, qu'est-ce que ça représente aussi? Non seulement c'est une introspection, mais parfois on peut s'interroger puis ne sortir à aucune conclusion ou ne sortir aucune conclusion. On pourrait faire une introspection et ne parvenir à aucun bilan de notre vie. On pourrait tout simplement dire « Ah ben j'ai regardé, puis j'ai aimé ce que j'ai vu. » et être satisfait. L'introspection de laquelle on parle ce matin, c'est une introspection qui va nous pousser à aller de progrès en progrès, à aller d'amélioration en amélioration. Et pour aller vers une amélioration, il faut donc que je sois capable de voir chez moi ce qui ne fonctionne pas, que je sois capable de faire cette analyse honnête suite à la réception de la parole de Dieu pour dire voici les endroits où cette parole vient toucher des points particuliers dans lesquels je dois améliorer ce que je fais. Donc la parole reçue non seulement doit pousser à une introspection, mais de surcroît à cela, elle doit pousser aussi à quatre choses qu'on nous dit ici dans le fait de prendre garde. Premièrement, prendre garde, regarder et faire attention, donc discerner. La parole de Dieu devrait nous pousser à un discernement. Plus j'étudie la parole de Dieu, plus je reçois la parole de Dieu, plus je devrais être prudent dans ce que je fais et plus je devrais être capable de discerner ce qui plaît, ce qui ne plaît pas à Dieu, ce qui vient de Dieu, de ce qui ne vient pas de Dieu. Donc la parole reçue, la parole enseignée que je reçois devrait me pousser vers un discernement accru. De surcroît à cela, au-delà du discernement, ça devrait aussi nous amener à une compréhension de la volonté de Dieu. Donc non seulement un discernement de la volonté de Dieu, mais aussi une compréhension de la volonté de Dieu. Mais que vous sachiez reconnaître la volonté de Dieu, que vous sachiez comprendre pourquoi Dieu veut telle chose, ça ne veut pas dire que vous vous y soumettiez. Donc, de surcroît au discernement et à la compréhension de la volonté de Dieu, la parole reçue devrait m'amener à une soumission à la parole de Dieu. Et je pousse encore plus loin dans notre quatrième terme par rapport à Blepo. Donc, au-delà du discernement, de la compréhension, de la soumission, on parle aussi d'une adoption de la volonté de Dieu. Pourquoi? Reprenons depuis le premier terme, donc le blépo m'amène à réfléchir sur moi-même, m'amène à discerner ce que Dieu veut, m'amène à comprendre ce que Dieu veut, m'amène à me soumettre à ce que Dieu veut, mais vous saurez le confirmer, parfois on se soumet par la force des choses, parfois on se soumet sans vouloir se soumettre, on obéit sans vouloir obéir. Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure attitude que cela? Est-ce qu'on n'est pas capable d'offrir à Dieu quelque chose de mieux qu'une simple soumission par soumission? Est-ce qu'on pourrait se soumettre par adoption de la volonté de Dieu? Et c'est là notre quatrième ou cinquième terme, adopter la volonté de Dieu. Je dis parfois, il y a des chrétiens qui subissent tout simplement la volonté de Dieu et il y en a d'autres qui embrassent la volonté de Dieu. Embrasser la volonté de Dieu, c'est adopter la volonté de Dieu. Et c'est le temps peut-être pour toi de réfléchir sur ta vie, mais assurément pour moi aussi, à savoir, ok, est-ce que je suis capable de discerner la volonté de Dieu pour ma vie? Est-ce que je suis capable de comprendre la volonté de Dieu? Est-ce qu'effectivement, j'offre une soumission à cette volonté de Dieu? Mais de surcroît, cette soumission, est-ce que je m'y soumets parce que j'ai le bras tordu, parce qu'il m'a tiré l'oreille à maintes reprises, ou je me soumets à la volonté de Dieu parce que je l'embrasse, parce que je l'adopte comme étant parfaite et merveilleuse pour moi? Alors, quelle est ton attitude par rapport à la volonté de Dieu? Et tu dois être capable de réfléchir, de faire l'introspection et de te demander est-ce que je discerne sa volonté, est-ce que je comprends sa volonté, est-ce que je me soumets à sa volonté, est-ce que j'ai adopté sa volonté pour ma vie. Il va nous dire par la suite, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Un mot compliqué, circonspection, sur lequel on va revenir. Deux termes en fait ici. Se conduire, péripatéo, donc P-E-R-I-P-A-T-E-O, je répète, se conduire péripatéo, P-E-R-I-P-A-T-E-O. Je dis les termes en grec et j'épelle pour ceux qui prennent des notes et je sais que vous êtes plusieurs à le faire. Donc péripatéo qui veut dire marcher, cheminer, progresser, qui parle de la conduite de tous les jours, qui parle d'un mode de vie ou d'une façon de vivre. Donc, il dit d'avoir un mode de vie ou de se conduire avec circonspection. Donc, la parole de Dieu devrait me pousser à avoir une marche qui plaît à Dieu. Et là, c'est, ça va au-delà de adopter la volonté de Dieu. Vous voyez qu'il y a une progression. On a réfléchi sur nous-mêmes, on s'est posé la question de savoir quelle est la volonté de Dieu, on s'est soumis à la volonté de Dieu, on a adopté la volonté de Dieu. Et ici, lorsqu'on parle de se conduire avec circonspection, ici, on parle donc de mener sa vie après avoir adopté la volonté de Dieu, après avoir embrassé la volonté de Dieu. Cette embrassade qu'on fait à la volonté de Dieu va imposer chez toi et chez moi une conduite. Tu ne peux pas dire que tu aimes la volonté de Dieu, que tu embrasses la volonté de Dieu, que tu as adopté la volonté de Dieu sans que cette adoption, sans que cette embrassade, sans que cet amour envers la volonté de Dieu ne se manifeste par des actions concrètes. Il y a des gens qui aiment Dieu, qui disent aimer Dieu, mais ne se conduisent pas comme quelqu'un qui aime Dieu. Il y a des gens qui proclament que Dieu est leur Seigneur et leur Maître, mais ne vivent pas comme ayant le Seigneur et leur Maître au-dessus d'eux et soumis à ce Maître et Seigneur. Donc la parole reçue devrait nous pousser à une marche qui plaît à Dieu. Alors tu peux t'interroger ce matin à savoir est-ce que ta façon de vivre, est-ce que ta façon de te conduire, est-ce que ton mode de vie plaît à Dieu ou tu fais subir ton mode de vie à Dieu? Est-ce que tu te restreins dans certaines choses parce que tu veux obéir à la parole de Dieu? Est-ce que tu résistes à la tentation et tu résistes au péché parce que tu veux te soumettre à Dieu? Est-ce que tu changes peut-être certaines pratiques que tu te rends compte à travers la lecture et à travers l'étude et à travers la réception, à travers l'enseignement qui t'est donné de la parole de Dieu? Est-ce que tu changes des façons de faire? Est-ce que tu changes des pratiques que tu avais jusqu'à présent? Donc, la réception de la parole de Dieu devrait imposer chez toi et chez moi, ou doit pousser chez toi et chez moi, à une marche de tous les jours qui plaît à Dieu. Lorsqu'on parle de circonspection ici, c'est le terme akribos, A-K-R-I-B-O-S. Je répète, akribos pour circonspection, A-K-R-I-B-O-S. Qui nous parle donc de diligence, donc de prudence, qui nous parle de perfection et d'exactitude. Lorsqu'on parle d'akribos, il y a comme deux grandes pensées ou deux grandes connotations. La connotation de diligence, prudence, de marcher adéquatement et de surcroît à cela, de la perfection et de l'exactitude de notre marche. Alors, l'autre chose que la parole reçue doit pousser, à la prudence et à l'excellence. Ça veut dire que je vais marcher, je vais me conduire en me posant des questions sur ma conduite. Je vais cheminer dans la vie en me posant des questions à savoir, est-ce que mon cheminement plaît à Dieu? Est-ce que la façon dont je mène ma vie plaît à Dieu? Mais plus loin encore que cela, puisque je suis supposé aller de progrès en progrès, et puisque Dieu nous a appelés à l'excellence, je dois donc, en recevant la parole, en la faisant mienne, pousser ma vie vers l'excellence. Je devrais être en constante amélioration, en constant progrès, en constante amélioration. Je devrais tendre effectivement vers la stature parfaite de Christ. La Bible nous dit de tendre à la parfaite stature de Christ. Ça veut dire de tendre vers l'excellence même que Christ représentait. Et pas se dire « Ah, mais je ne peux pas y arriver, de toute manière je suis pécheur, je ne suis qu'un homme, je ne suis pas excellent. » Ça, je suis d'accord avec toi. Tu n'es qu'un homme, tu n'es qu'une femme, tu n'es qu'un humain, tu es faillible, tu as des manquements à cause du péché. Mais c'est pas parce que j'ai des péchés et c'est pas parce que j'ai une nature pécheresse que je ne peux pas tendre, que je ne peux pas pousser, que je ne peux pas courir et marcher vers l'excellence. Et notre vie chrétienne devrait être une vie où nous marchons chaque jour un peu plus vers la stature parfaite de Christ, donc un peu plus vers l'excellence même de Christ. Donc la parole reçue doit non seulement me pousser à une marche qui plaît à Dieu, mais cette marche doit être faite dans la prudence et aussi dans la recherche, dans la poursuite de l'excellence. Et il termine en disant, prenez garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Non comme des insensés, le terme non comme, l'expression non comme, c'est le terme me, qui veut dire surtout pas. Ou en anglais, il y a l'expression God forbid. En français, à Dieu ne plaise, que ça n'arrive pas. Et qu'est-ce qui ne doit pas arriver? Que ça n'arrive pas que je me comporte comme un insensé. Et un insensé, c'est le terme asophos. A-S-O-P-H-O-S. A-S-O-P-H-O-S, qui veut dire sans sagesse ou comme un fou. Wow! Alors Dieu me dit de mener une vie où je ne me permets pas de vivre comme un fou. Donc la parole de Dieu doit me pousser à un désir d'obéissance à Dieu. God forbid, à Dieu ne plaise. Que Dieu m'empêche d'aller là, que Dieu me l'interdit. Je ne veux pas aller là parce que Dieu ne veut pas. Donc ça, c'est supposé faire en sorte que dans ta vie que tu mènes en cherchant à marcher en plaisant à Dieu, que tu mènes en invoquant la prudence et en cherchant l'excellence, cette vie-là devrait être mue par un désir constant, un désir croissant d'obéir à Dieu. Et de surcroît à cela, lorsqu'on nous dit de ne pas être comme un insensé, donc de ne pas être comme quelqu'un qui manque de sagesse, de ne pas être comme quelqu'un qui est fou, la parole reçue doit me pousser à délaisser l'irréfléchi. Très souvent, les gens vont nous dire « Hey, j'ai péché, mais c'est parce que je n'ai pas réfléchi. » Mais voilà pourquoi tu dois t'arrêter et vivre avec une circonspection. Voilà pourquoi tu dois t'arrêter et réfléchir. Voilà pourquoi tu dois t'arrêter et faire une introspection sur ta vie. Est-ce que ça se pourrait qu'actuellement, tu t'apprêtes à mettre le pied là où Dieu ne veut pas? Est-ce que ça se pourrait que tu sois en train de t'associer avec ceux que Dieu ne veut pas? Est-ce que ça se pourrait que tu aies entraîné des choses dans ta vie ou que tu aies gardé des choses dans ta vie qui ne glorifient pas Dieu? Et si tu ne cherches pas toujours davantage à obéir à Dieu, si tu ne cherches pas à marcher de façon réfléchie, donc en abandonnant l'irréfléchi, ben à ce moment-là, tu vas retomber constamment dans ce que toi tu appelles ou dans ce que le diable voudrait qu'on appelle des péchés et je m'en suis pas rendu compte. Si nous sommes coupables, c'est que nous savons que nous ne devons pas faire une chose. Alors même si je ne réfléchis pas en faisant la chose, même si je ne prends pas le temps pour m'arrêter, ce n'est pas parce que je ne prends pas le temps que je ne sais pas que cela est péché. Donc la Bible nous dit, fais attention à ta marche, fais attention à comment tu progresses et assurément, fais attention à réfléchir à ce que tu fais, à ce que tu dis, à comment tu mènes ta vie. Donc ne menez pas une vie comme des insensés, mais plutôt comme des sages. Donc ici le terme « mais », c'est le terme « Allah », Allah, A-L-L-A, qui parle « mais plutôt », qui veut dire « mais bien plus ». Donc au lieu d'être irréfléchi, soyez bien plus encore des gens qui sont réfléchis. Donc le contraire de « asophos », « sophos » maintenant, « sage », « sophos », « s-o-p-h-o », qui parle donc de celui qui est sage, de celui qui est un expert, de celui qui est un érudit, de celui qui connaît, donc qui est un connaisseur, et de celui qui est bien équipé. Ici, on parle de quelqu'un qui a étudié, qui a reçu l'enseignement, qui a permis à cet enseignement de l'éduquer, de l'enseigner, et qui va faire en sorte que cet enseignement prend forme de façon tangible et palpable dans sa vie. La parole de Dieu devrait nous pousser à connaître Dieu davantage. Plus j'étudie la parole de Dieu, plus je reçois la parole de Dieu, plus je devrais apprendre qui est Dieu, ce qu'il veut et ce qu'il demande de moi. Et de surcroît à cela, lorsqu'on parle d'un érudit, lorsqu'on parle d'un sage, lorsqu'on parle d'un expert, savez-vous qu'un expert, un sage et un érudit, qui sont des synonymes, ne sont jamais quelque chose de stagnant? Mais l'érudit est toujours dans une quête de connaissances supplémentaires. Le sage a tout le temps cette sagesse de pousser plus loin encore sa réflexion pour apprendre encore davantage. Il y a des gens qui arrivent à un certain niveau, puis ils se disent à ce moment-là, je suis parvenu là où je devais arriver et je connais assez par rapport à Dieu, à moins que nous n'arrivions dans sa présence. Et la Bible nous dit que là-haut, nous connaîtrons toutes choses, mais jusqu'à présent, nous connaissons partiellement. La parole de Dieu nous est révélée graduellement. La pensée de Dieu nous est révélée graduellement. Donc, tu n'arrives pas à un point final de ce côté-ci de l'éternité. Tu n'arrives pas à un point final de ce côté-ci de ta vie. C'est simplement dans l'éternité qu'à ce moment-là, nous connaîtrons toutes choses excellemment et parfaitement et complètement. Mais d'ici là, nous sommes dans cette quête d'éducation, nous sommes dans cette quête de sagesse, nous sommes dans cette quête de connaissance de la parole de Dieu. Donc la parole que je reçois devrait me pousser à connaître encore davantage Dieu ou à vouloir connaître Dieu encore davantage. Et la parole reçue devrait me pousser même à une étude accrue de cette même parole. Alors qu'est-ce qu'on a vu ce matin? On a vu tout d'abord que la parole reçue doit avoir une incidence sur ta vie. On a vu que la parole reçue doit te pousser à une introspection. On a vu que la parole reçue doit te pousser à un discernement, à une compréhension, à une soumission, mais aussi à une adoption, à une embrassade de la volonté de Dieu. On a vu que la parole de Dieu doit pousser à une marche quotidienne qui plaît à Dieu. On a vu que la parole reçue doit pousser à la prudence dans notre marche et à l'excellence, à la quête de l'excellence dans notre marche. On a vu enfin que la parole de Dieu, la parole reçue doit nous pousser à un désir d'obéissance à Dieu. Chaque jour, je dois avoir ce désir plus grand d'obéir à Dieu. La parole de Dieu doit nous pousser à délaisser tout ce qui est irréfléchi. J'y suis allé par feeling, j'y suis allé par réaction tout simplement. Prends le temps, arrête-toi, réfléchis à ce que tu fais, réfléchis là où tu mets les pieds, réfléchis là où tu mets le regard ou là où tu remets le regard. La parole de Dieu enfin, la parole reçue doit nous pousser à connaître Dieu davantage, à ce désir de le connaître encore mieux et plus encore, la parole reçue doit nous pousser à une étude encore plus approfondie de cette même parole. Alors, je crois effectivement que le Seigneur nous a parlé ce matin. On va prier pour terminer. Merci Seigneur pour cette parole. Je prie qu'effectivement, à la lumière de ce qu'on a étudié ce matin, que cette parole ne retourne pas à toi sans porter les fruits pour lesquels elle est prononcée. Tu as préparé ces mots qui ont été prononcés aujourd'hui de toute éternité. Tu as préparé ces sujets que nous abordons ce matin de toute éternité. Tu pensais à nous. Tu savais tous ceux qui seraient réunis pour écouter en direct et ceux qui écouteraient en différé. Alors Seigneur, nous ne voulons pas mépriser tes plans que tu avais formés de toute éternité pour nous. Nous ne voulons pas mépriser tes bienfaits pour nous. Nous ne voulons pas mépriser l'attention que tu nous prêtes. Nous ne voulons pas mépriser le don de cette parole que tu nous accordes. Alors Seigneur, permets-nous effectivement de faire l'introspection et d'accorder à cette parole toute l'importance qui se doit. Et je prie Seigneur ainsi pour moi, mais aussi pour mon frère et aussi pour ma sœur, que nous ayons ce désir de nous conformer à ta parole, d'aller de gloire en gloire, de progrès en progrès, et de mener cette vie, Seigneur, qui t'est agréable. Alors j'appelle, Seigneur, l'onction de ton esprit sur tout ce qui a été prononcé ce matin Arrose cette parole afin qu'elle s'enracine dans notre réflexion, dans notre âme, dans notre esprit, et qu'elle puisse porter un fruit qui te sera agréable jusque dans l'éternité. Seigneur, nous nous soumettons à ta parole, nous l'embrassons et nous déclarons que ta parole est source de vie et source d'excellence dans nos vies. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, voilà ce que nous avions pour ce matin. On vous rappelle que ce soir, il y a cours biblique avec le pasteur André, donc à 19h, heure de Montréal, l'étude biblique sur le livre des Actes, avec tous ces enseignements qu'on peut tirer de la vie de l'Église primitive, de ces premières années où l'Église a démarré. Ça doit être pour nous une source d'exemple, une source de mise en garde, une source d'enseignement pour nous tous. Alors, c'est ce soir avec le pasteur André. Sinon, on se retrouve demain matin, même heure, même poste, 8h30 et même un peu avant pour vous saluer. Donc, demain matin pour la poursuite de notre étude. Et demain matin, on étudiera donc le verset 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alors, que Dieu vous bénisse et on se retrouve demain, ce soir avec le pasteur André et demain matin avec moi. Au revoir tout le monde.